Bien, alors on va reprendre là où on en était. C'est vrai que parfois c'est un petit peu difficile parce qu'il y a des interruptions, mais je pense que vous allez vous y retrouver. Les textes sont un peu longs ce matin, et ce matin j'aborderai donc la parabole qui a été donnée à David, et Philippe prendra la suite avec la repentance de David qu'on trouve dans le psaume 51. Donc on est à cheval sur deux textes, hein, l'histoire chronologique un petit peu qu'on trouve dans Samuel, et puis, deuxième texte, la repentance de David qu'on va trouver dans le psaume 51. C'est ça qui est merveilleux dans la Bible, les textes peuvent se répondre. Et du coup, on va le faire à deux voix, puisque Philippe a travaillé, lui, sur le psaume 51. Alors, ce sont des textes un petit peu difficiles. Je vous préviens tout de suite, parce que c'est des textes qui peuvent être mal interprétés. Et il ne faut pas rentrer dans une culpabilité, tout en acceptant que Dieu est à la fois un Dieu d'amour et un Dieu de justice. Donc ce sont des textes difficiles, je vous préviens, parce que ce sont des textes qui peuvent être mal interprétés si on ne connaît pas le reste de la Bible. Et vous savez que pour interpréter la Bible, il faut tenir compte de l'ensemble de la Bible, toute la Bible, pas seulement ce que je pense de trois lignes au milieu de la Bible. Il faut être très attentif à ça, sinon on peut faire dire à la Bible absolument n'importe quoi, y compris le contraire de ce que Dieu veut. Hein, c'est très très dangereux, hein. On raconte toujours cette histoire stupide que je vous raconte toujours, hein. Je suis déprimée, j'ouvre la Bible, et Judas se pendit, et je me pends, la corde casse, je reprends la Bible, repends-toi. Non, c'est vraiment un truc stupide, mais c'est l'exemple même qu'il faut jamais faire avec la Bible. On peut pas s'appuyer sur un demi-verset, ou trois lignes, etc. Il faut être très prudent, du coup, c'est pour ça qu'il faut connaître sa Bible. C'est pas une question d'être savant, c'est simplement de bien connaître l'ensemble de la Bible. Sinon, on peut. Vous savez, le diable, qu'est-ce qu'il a utilisé pour séduire Jésus, le Fils de Dieu ? La parole. C'est fou, ça. Donc, est-ce que nous, on est à l'abri ? Jésus y a eu droit. Hein. Donc, nous aussi, on y aura droit. Il y aura des moments où des textes vont être interprétés de travers, et il faut bien posséder le texte de la Bible, le mettre dans son ensemble. Quand j'ai un doute, quand j'ai quelque chose qui me tracasse, c'est dans la Bible que je retrouve ma sécurité, dans l'ensemble de la Bible. Hier soir, quelque chose m'a tracassée et j'ai retrouvé ma paix en cherchant dans la parole de Dieu. Hein, c'est très important. Alors, on va passer donc à 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 11. Alors tout ça, c'est des passages, je vous ai déjà dit la dernière fois, que je n'aime pas du tout, mais bon, voilà, ils sont là. Et on va les travailler. Je vais quand même rapidement lire le début pour resituer, parce que comme on a eu une semaine d'interruption, David écrit une lettre au chef de son armée et il l'envoie par l'intermédiaire d'Uri, donc 2 Samuel 11, verset 14. Et il écrit dans cette lettre « Placez Uri à la pointe du combat, le plus violent, et retirez-vous derrière lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » David. Comment il a pu faire ça ? Alors, non seulement il lui avait piqué sa femme, cette dame attendait un bébé de lui, et maintenant, comme il ne peut plus cacher sa faute, eh bien, il va plus loin. Il faut faire mourir le témoin, en quelque sorte. Voilà. Bien. Alors, j'aurais juste faire quelques remarques sur le texte avant de passer à la parabole de Nathan, ce prophète extraordinaire. Déjà, la stratégie de David pour cacher sa faute, elle est franchement diabolique, vous êtes d'accord avec moi. Il prend la femme, il tue le mari, comme ça il est tranquille. Et l'idée, j'ai quand même passé un peu de temps sur cette idée, là, au début de la semaine, place Uri à la pointe du combat, c'est-à-dire mets-le en danger. Et puis, retirez-vous derrière lui, isolez-le. Et puis, là, vous pouvez frapper et il mourra. C'est une technique parfaitement diabolique. C'est la technique que vont utiliser toutes sortes de gens manipulateurs en politique. Bon, je crois qu'on en a tous marre de la politique, mais si vous regardez un petit peu ce qui se passe, on met le gars en situation difficile, et puis on le laisse se débrouiller, et sa réputation politique est morte. C'est diabolique, mais c'est comme ça. Et on retrouve là une stratégie complètement classique de Satan, envers les serviteurs de Dieu aussi, et Jésus lui-même. Combien de fois Jésus a été mis en danger? En danger de dire ce qu'il ne fallait pas dire, ou de faire ce qu'il ne fallait pas faire, guérir quelqu'un le jour du sabbat. Rendez-vous compte, quelle horreur. Essayez de l'isoler. Et puis, on frappe et on le tue. Le diable a essayé, et il se trouve qu'il a réussi. Jésus était seul à Gethsémané. Ses disciples n'ont pas pu continuer à prier avec lui. Jésus était seul, isolé. Et ça a été beaucoup plus facile hein, de le frapper et de le tuer. Mais Jésus est la vie, il est ressuscité. Et c'est ce qui s'est passé pour David lui-même. Il ne s'est pas rendu compte, David, qu'en faisant ça à Uri, eh bien, ça s'est passé pour lui aussi. Il n'était plus dans le danger de la guerre, mais il était dans le danger de l'oisiveté. Se reposer sur ses lauriers, c'est le cas de dire, sur sa gloire, sa richesse, sa prospérité. Et curieusement, dans le passage qu'on a vu la fois dernière, il était isolé. Mais qu'est-ce qu'il faisait tout seul sur son balcon après sa sieste? Hein, j'avais posé la question, où était sa famille, où étaient ses amis, où étaient ses conseillers? Il était seul, bizarre pour un roi qui avait autant de monde autour de lui. Et puis, l'ennemi frappe, il cède à la tentation. Sa relation avec Dieu se trouve coupée. Et il va être sauvé par la grâce de Dieu, par la repentance et le pardon. Et ça, c'est Philippe qui va en parler tout à l'heure. Mais, quelque part, David a ouvert une porte à l'ennemi. Et le dernier verset de cette histoire d'Uri, le verset 26 dit « La femme d'Uri apprit que son mari était mort. Elle se mit à se lamenter sur son époux. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils. » Voilà, il a réussi. La stratégie a marché. On a tué le mari. Tout est bon, tout est caché. Enfin, en fait, et puis imaginez, Dieu n'a rien dit. N'est-ce pas formidable? Parfois, la patience de Dieu, il ne faut pas la prendre pour une approbation. Dieu est patient. Donc, tout va bien. Vous avez vu que le temps a passé. Hein, elle devint sa femme et lui donna un fils. Ça a pris au moins 9 mois quand même. Je pense un petit peu plus, hein, puisque c'était déjà un bébé qui avait un peu grandi quand il est mort. Et ce verset extraordinaire de la parole de Dieu, qui moi me parle beaucoup, ce que David avait fait déplut au Seigneur. Et là, moi, ce verset-là me touche. Parce que franchement, j'aurais été à la place de Dieu. J'aurais pas été heureux. Hein. J'aurais dit, quoi ? Avec tout ce que je t'ai donné, mais tu te fiches de qui ? Allez, terminé. Et la Bible est sobre. Et c'est là que je vois la main de Dieu. Quel écrivain, dans son bon sens, aurait pu écrire ça? Ce que David avait fait déplut au Seigneur. C'est tout. C'est tout? Enfin, c'est bien plus grave que ça. Enfin, il vole la femme de quelqu'un. Elle a un enfant, il ment, il couvre et puis il tue le gars. Voilà. Il le fait tuer en plus par des ennemis. C'est le comble. Moi, tu sens la colère monter quand tu lis ça. Ben non. Dieu dit, ce que David avait fait déplut au Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas comme nous. Moi, pour moi, ça, vous voyez, c'est une preuve que la Bible, ce n'est pas écrit par des hommes. Elle est écrite par des hommes, mais inspirée de Dieu. Un homme, dans son bon sens, n'aurait pas pu écrire une ligne comme ça. Non, mais attendez, quand même, c'est révoltant, cette histoire. Moi, ça me fait mal au cœur, 3000 ans après, tout ce qui est arrivé à David, ça me fait mal au cœur de prêcher là-dessus. Alors l'ennemi, il attaque ce que nous sommes. L'ennemi attaque notre être, c'est l'accusateur des frères. Tu es ceci, tu es cela. Et là, ce que j'aime, c'est pas l'homme qui parle, c'est Dieu. Ce que David avait fait, et non pas ce qu'il était. Si c'est un humain qui avait écrit ça, il aurait écrit « c'est un meurtrier, c'est un adultère, c'est un voleur, c'est un menteur ». Mais c'est Dieu qui parle, ce que David avait fait. L'être humain attaque l'être. Tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es cela. Dieu s'adresse au faire. Il aime le pécheur, mais il déteste le péché. Et il regarde ce qu'on fait, et il traite ce qu'on fait. C'est très important. Donc pour moi, cette petite phrase-là, ça me dit, celui qui a écrit, il est inspiré de Dieu. Ce n'est pas humain d'écrire ça. Moi, j'aurais écrit adultère, voleur, menteur, meurtrier. Voilà. Dieu n'est pas comme ça. C'est très important de s'en souvenir. Dieu met le doigt sur ce qu'il a fait et qui déplaît à l'Éternel. Et d'ailleurs, je vais m'arrêter sur ce commentaire un petit peu, parce que après l'horrible histoire qu'il vient d'écrire, le commentateur dit que ça, c'est clair, c'est simple, c'est l'essentiel. C'est incisif, mais c'est très sobre. Vous savez, dans les romans, vous en auriez une demi-page. Hein ? Prenez n'importe quel romancier, même moderne, vous en auriez une demi-page. Oh ! C'est sobre, la parole de Dieu est sobre. Dans un cas comme celui-ci, l'âme humaine va réagir fortement. D'ailleurs, quand il entend la parabole, on va le voir tout à l'heure, David, mais il est en colère. Ben voilà, l'âme humaine, elle s'exprime là. Quoi ? Et puis, et là, ça m'a fait réfléchir à comment nous, on réagit en tant qu'humains. Alors, il y a ceux qui vont rentrer dans la colère, foudroyer tout de suite, faire des reproches, faire un jugement sévère, « Ceci, tu n'es qu'un cela », etc. Et puis, il y a d'autres caractères qui vont justifier. « Oh, bon, ben, c'est pas si grave. Hein. » De toute façon, tous les rois à l'époque, ils faisaient ça. Ils avaient droit de vie ou de mort, hein. C'était légal. Plus, mais il était dans la légalité, il pouvait tuer qui il voulait. Tous les rois de l'époque, si vous lisez un peu les textes de l'Antiquité, vous verrez, ils avaient le droit de vie ou de mort. Donc, enfin, il était dans son droit. Pauvre David, hein. Il était dans son droit. C'est le roi, après tout. Il a le droit de vie ou de mort sur ses sujets. C'est comme ça dans tous les peuples qui nous entourent. Puis c'est notre héros de guerre. Il est au sommet de sa gloire. On ne va pas l'accuser, un gars qui est au sommet de sa gloire quand même. On ne touche pas aux gens qui sont au sommet de la gloire. Quand il va être en bas, là, tout le monde va le piétiner. Mais quand on est au sommet de sa gloire, on ne vous touche pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, devant la désobéissance consciente d'un enfant de Dieu ? Comment on se comporte ? Et devant le mépris de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on agit en fonction de notre caractère, parce qu'on est humain. Alors, ou on va foudroyer, pointer du doigt et accuser, ou alors, suivant notre caractère, on va justifier, expliquer, excuser. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande ? Est-ce que c'est de foudroyer ou d'excuser ? Ou est-ce qu'il n'y a pas une autre solution ? Dieu nous demande la vérité dans l'amour. Être capable de dire à quelqu'un ce que tu fais déplaît à Dieu. Ben, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce n'est pas facile à dire. Ce que tu fais déplaît à Dieu. Et pourtant, on peut verser dans l'accusation ou dans le laxisme. Et si on voit un frère qui fait quelque chose qui ne va vraiment pas, je ne parle pas de la couleur de la moquette, hein, je parle vraiment de choses capital par rapport à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est capable, moi je me suis posé la question, de dire ce que tu fais déplaît à Dieu. C'est pas que ça me déplaise à moi, ça n'a rien à voir. Ça peut me déplaire à moi, et alors ? Mais ça déplaît à Dieu. Est-ce que c'est ça notre référence ? Ou c'est ce que je pense, ce que je crois, ce que je veux qui est la référence ? Ou mon caractère ? Moi je suis colérique, donc attention. Ou bien moi je suis cool, donc allez, c'est pas grave. Quelle est notre référence ? Je me suis posé toutes ces questions à moi-même. C'est quoi ma référence ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est moi ? Et attention, et à notre époque, je dois vous dire, c'est très difficile. Parce qu'il y a des choses qui sont maintenant pas politiquement correctes. Attention, est-ce que c'est moi la référence ou est-ce que c'est Dieu ? Et je crois qu'il faut se poser la question chaque fois qu'on est devant un frère ou une sœur, là je parle de chrétiens engagés, hein, mais ça peut aussi être avec des non-chrétiens, qui fait quelque chose de vraiment pas juste, où il y a mépris de la parole de Dieu, où il y a mépris des 10 commandements, où il y a mépris de toutes sortes de choses. Est-ce que je suis capable de dire attention, ce que tu fais déplaît au Seigneur ? Et je crois que c'est ce que j'ai aimé le plus dans l'éducation de mes parents. C'était jamais tu es notre fille, tu ne dois pas te comporter comme ça, ou bien ouais, qu'est-ce que dirait le pasteur ? Ou bien, non, c'était « Qu'est-ce que le Seigneur pense ?» Ah, ça, c'était très gênant. Hein. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Qu'est-ce que Jésus a fait ? C'est ça la référence. C'est parce que je crois, même si je suis chrétien, et je suis convaincue de quelque chose. La référence, c'est la parole de Dieu. Et les églises qui resteront là-dessus, elles survivront. Mais je crains que les églises qui vont tout doucement adopter le politiquement correct, qui vont adopter ce qu'ils reçoivent, etc., ils sont en danger. C'est la parole de Dieu. L'Église n'a qu'une justification, la parole de Dieu. On existe parce que c'est Dieu qui est au centre. On existe parce que c'est Dieu qui l'a demandé. On existe parce qu'on doit être la lumière du monde, le sel de la terre. Sinon, on n'a aucun... Quel est l'intérêt d'avoir une église si on n'est pas le sel? Qu'est-ce que dit Jésus? Il va loin hein, quand il dit le sel, s'il perd sa saveur, il est bon à piétiner, à jeter dehors. Aïe, ça c'est une parabole qui fait mal. Donc on n'évalue pas les problèmes par rapport à ma culture. Dire, bah écoutez, dans mon pays, comme ils auraient pu dire pour David, mais dans notre pays, hein, le roi il a le droit de vie ou de mort, qu'est-ce que vous lui voulez à ce pauvre David? C'était un droit. Donc c'est pas ma culture, c'est pas ma génération non plus qui est la référence. Hein, parce que je pense à la louange par exemple, je connais des chrétiens super qui aiment le Seigneur, vraiment merveilleux, mais sortis des champs des ailes de la foi, c'est plus de Dieu. Alors je les aime bien, moi j'aime bien aussi les chants des ailes de la foi. Mais moi de toute façon, pourvu que les paroles, et là j'ai tellement aimé Sylvain Frémont, les paroles des chants, c'est ça qui compte. Qu'est-ce que je dis de mon cœur à Dieu? Et si je le dis en grégorien, en rap ou en voilà, la musique du 19e, so what? Si je pense ce que je dis, c'est là l'important. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux ou les oreilles, mais Dieu regarde au cœur. Quel est mon cœur quand je chante? Et si je le chante en grégorien, et alors? Même si je le chantais en latin, si je comprends le latin. Peu importe si je crois ce que je dis. Hein? Alors bien sûr, il faut suivre, je veux dire, on ne va pas faire des cultes en grégorien, vous inquiétez pas. Mais simplement, c'est le cœur qui compte. Quel est mon cœur? C'est pas ma culture et c'est pas ma génération. Alors bien sûr, on est influencé par notre culture, on est influencé par notre génération. Mais quand même, la référence, c'est pas ça. La référence, c'est la parole de Dieu. Alors, on va lire le chapitre 12. Oh, il est magnifique quand même. Le Seigneur envoya Nathan à David. Vous remarquez comme c'est court. Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une même ville deux hommes, un riche et un pauvre. Le riche avait du petit bétail et du gros bétail en grande quantité. » Bon, c'était les signes de richesse à l'époque. Maintenant, on parlerait peut-être des actions à la bourse, hein, j'en sais rien. Le pauvre n'avait rien qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait avec lui, avec ses fils, elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, couchait sur son sein, elle était pour lui comme une fille. Alors, vous trouvez peut-être ça bizarre avec un petit mouton, mais je suis sûre que mes petites filles comprennent qu'on puisse aimer un petit agneau. Hein. C'est trop mignon. Puis ils ont l'air moins bêtes que leurs parents. C'est vrai, les moutons, je trouve que ça a vraiment l'air bête. Je suis désolée, j'aime bien les moutons, mais quand ils vous regardent comme ça, on a un peu de mal. Par contre, les petits agneaux, ils sont vifs. Hein. Je suis allée à la bergerie de Rambouillet accompagner Samuel dans un voyage scolaire. Waouh, on se régale. Hein. Ils sont trop mignons. Ils avaient même le droit de donner le biberon aux petits agneaux, je ne vous dis pas. Donc voilà, et à l'époque, j'ai vérifié, à l'époque, les petits agneaux étaient facilement pris comme animaux domestiques. C'est sûr que c'est peut-être moins hargneux qu'un chien. Et peut-être plus discipliné aussi. Donc, c'était une époque où certaines familles avaient comme animal domestique un petit agneau. Je ne sais pas ce qu'ils en faisaient une fois qu'il était gros, ils devaient le manger, mais bon, pas le dire. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Comme celui-ci voulait épargner son petit bétail et son gros bétail, ben voyons, pour préparer un repas au voyageur qui était arrivé chez lui, il prit la brebis du pauvre. Bon, c'est tellement plus simple, elle est juste à côté. Et il la prêta, c'est-à-dire il la fit cuire, hein, pour l'homme qui était arrivé chez lui. Et moi, j'imagine David. Qu'est-ce qui se passe en lui? La colère qui monte, on le voit après. Hein, il se mit dans une grande colère. Ben oui, au fur et à mesure de l'histoire, ça devait commencer à bouillir. Alors là, je voudrais remarquer deux choses. D'abord, la patience de Dieu. Ah, moi, j'aime le Seigneur pour sa patience. Mais combien de fois il aurait pu nous sauter dessus? Mais il est patient. Cet amour et cette patience de Dieu, c'est quelque chose, moi, qui me touche énormément. C'est peut-être parce que je n'ai pas assez de patience, je ne sais pas, mais je pensais qu'on a un Dieu tout-puissant, qui sait tout, qui voit tout, et qui ne nous retombe pas dessus à la première occasion. Moi, ça me touche. Et il sait qui il envoie. Il va envoyer un prophète qui est patient aussi, Nathan. Parce que tout ça, ça se passe quelques mois plus tard, hein. Nathan, qui était au courant, bien sûr, comme tous les gens de la cour, comme tous les gens, les gardes, etc., tout le monde savait ce qui s'était passé. Il n'y a que David qui pensait que personne ne savait. Nathan, il a été patient. En tant que prophète, moi j'aurais été à la place de Nathan, ou le lendemain j'aurais foncé au palais. Hein. Non mais quoi ? Toi, le grand roi David ? Non mais ça va pas ! Nathan a été aussi patient que Dieu lui a demandé. Ah, la patience de Dieu. Arrêtez de croire que Dieu est un Dieu d'exigence, d'urgence. Non, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Dieu est patient. Par contre, si Dieu est patient à votre égard, ça ne veut pas dire qu'il approuve. Méfions-nous de ça toujours. Oh, mais de toute façon, Dieu ne me fait rien. Hein, j'ai volé, j'ai fait ci, j'ai mal déclaré mes impôts. Oh, mais tu vois, je vais très bien, je suis prospère. Attention, la patience de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il approuve. Donc soyons prudents quand même. Mais Dieu est patient. Et Dieu n'agit pas souvent sur le coup, parce qu'il nous laisse le temps de comprendre. Il nous laisse le temps de se repentir. Et là, les mois sont passés. Et j'imagine Dieu qui se dit, voilà, il ne comprend rien du tout. Il va être temps d'intervenir. Qu'est-ce que je vais envoyer ? La Bible dit, hein, qui enverrai-je ? Allez, Nathan, va le voir. Puis raconte-lui une histoire. Alors ça aussi, ça me touche. Ça me touche parce que j'ai passé du temps sur les paraboles. Je vais peut-être terminer avec ça. Je pense que je continuerai un peu plus tard. J'ai passé du temps sur les paraboles pour essayer de comprendre pourquoi Jésus parlait en parabole et quel est l'intérêt d'une parabole, d'une histoire. Alors, il raconte une histoire parce que il veut se mettre à la portée. Il veut faire réfléchir David. Comment faire réfléchir quelqu'un qui est sûr d'avoir raison ? Alors, ma solution à moi, ça aurait été de lui foncer dessus. De dire, mais réveille-toi, là, tu vois un peu ce que tu as fait. Non, mais il y a Achitophel qui est ton conseiller et tu as pris sa petite fille et puis tu as... Enfin, voilà, moi, j'aurais... c'est pas tolérable ce qu'il a fait. Il raconte une histoire. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime et il veut qu'on comprenne. La foi, ce n'est pas nécessairement un saut dans le vide. La foi, c'est comprendre que Jésus a donné sa vie pour nous, qu'il a payé le prix pour nous. Hein ? Attention, Dieu aime que l'on comprenne. Et les paraboles, elles sont là pour ça. C'est bien qu'il y a des gens qui vont avoir du mal à comprendre. Eh bien, on leur raconte une histoire. Et il va le faire réfléchir. Et là, c'est le deuxième degré. L'histoire, c'est bien. Mais après, ce qu'il veut, c'est le faire réfléchir. Et il raconte une histoire de justice. Et c'était typique de cette époque. Hein. En ce temps-là, le rôle du roi était de faire justice. Donc, on va lui raconter une histoire de justice. Et vous savez que David avait un grand sens de la justice, pour avoir subi des milliers d'injustices pendant des années. Remarquez que Dieu donc ne l'agresse pas. Il ne l'attaque pas. Il n'exige pas des comptes. Il raconte une histoire. Et là, je retrouve le Dieu de la Genèse. Ah, ce Dieu. Ce passage de la Genèse, vous ne pouvez pas savoir ce qui me fait plaisir. Je me le répète parfois. Qu'est-ce qu'il a fait Adam ? Il a tout cassé. Paradis terrestre, tout était beau, tout était bon. Pas d'ortie dans les jardins. Ouf, pas de ronces. J'ai les jambes couvertes de piqûres de ronces là en ce moment. La belle vie, quoi. Il fait la bêtise, la désobéissance qu'il ne faut pas faire. Il casse tout. Et moi, mettez-vous à la place de Dieu. Non mais avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu te rends pas compte ? Tu casses tout ! C'est foutu pour des générations, tu vas pénaliser ! Tu vas pénaliser l'église d'Auvergenville ! Tu vas pénaliser les successeurs dans 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans ! Il y avait de quoi se mettre en colère ? Comment Dieu réagit ? Pensez à ça quand vous pensez que Dieu est méchant. Parce que ça arrive, hein ? Pensez à ce verset. Qu'est-ce qu'il dit ? Où es-tu, Adam ? Je voudrais te voir, autrement dit. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on ne communique plus ? Où es-tu, Adam ? C'est ça l'amour de Dieu. Où es-tu, Adam ? Ah, j'aime ce verset. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'agressivité. Il n'y a pas de « moi je suis Dieu et toi tu vas faire ça et puis maintenant avec ce que tu as fait, tu vas voir ce que tu vas prendre. » Où es-tu, Adam ? Autrement dit, ça me manque ce temps qu'on passait ensemble dans le jardin. Vous savez, la Bible dit que tous les soirs, vous êtes su, oh, c'est chouette, hein, tous les soirs était dans le jardin avec Adam. Oh ! Et donc Dieu, ça lui manquait parce qu'imaginait qu'il a un cœur, Dieu. Et il aimait ce contact. Il avait créé l'homme pour avoir une communion avec lui. Ah, ce Dieu extraordinaire. Vous savez, dans ces temps troublés en ce moment, où on ne sait plus qui fait bien, qui est l'agresseur, qui est la victime. Il y a la moitié de la planète qui pense que la victime est l'agresseur, l'autre moitié qui pense que l'agresseur est la victime. Enfin bon, c'est grave, hein. On ne s'y retrouve plus, on ne sait plus qui fait quoi. On ne sait plus les fake news et les vraies news. Enfin, on est dans une période problématique. On est vraiment dans une période difficile. Alors ça restaure de se tourner vers ce Dieu rempli d'amour et de justice. Philippe va vous parler peut-être plus de l'aspect justice. Donc voilà, vous savez, les contraires, ces fameux contraires qui marchent ensemble. Alors, remarquez l'attitude de Dieu. Devant la parabole de Nathan, il n'est ni la victime ni l'agresseur. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Il est le juge. Ah Dieu, Dieu sait s'y prendre. Hein. Il lui raconte l'histoire, puis dire là maintenant tu vas être le juge. C'est toi qui vas être le juge. T'es pas la victime, t'es pas l'agresseur, t'es le juge. Donc il va voir les choses d'une autre perspective. Jusqu'à présent, sa perspective c'est j'ai raison, j'ai fait ce qu'il fallait, je suis le roi, j'ai le droit. Et doucement, Dieu va l'amener. Change ton regard, David. Regarde cette histoire, elle te révolte? Qu'est-ce qu'il dit? David se mit dans une grande colère contre cet homme. Il dit à Nathan, par la vie du Seigneur, et il parle au nom du Seigneur, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Quant à la brebis, il la compensera au quadruple. Il applique la loi à la lettre. C'était quatre quadruples et il fallait rendre quatre fois. Puisqu'il a fait une chose pareille qu'il n'a pas voulu l'épargner. Par contre, lui, il la rajoute la mort. Hein. Ça, c'est l'homme. Vous voyez la différence avec Dieu? La loi disait, il rend quatre fois. Là, il dit, cet homme mérite la mort. Ah ouais, depuis quand? Ça, c'est sa loi à lui. Hein. C'est la loi des hommes. Vous voyez, les hommes, ils vont toujours plus loin. Dans l'agressivité, la dureté. C'est l'homme, on est humain, c'est nos faiblesses humaines. Donc là, il n'est ni victime ni agresseur, mais il est le juge. Du moins, il le croit. Il va changer sa façon de voir, il va voir les choses différemment. Et c'est là que Dieu va pouvoir le faire revenir dans le droit chemin. Par le biais d'une petite histoire. La parabole de Jésus en utilise beaucoup. Parce que ça illustre une vérité morale ou religieuse grâce à une comparaison qui est tirée de la vie courante. Ah, Dieu n'est pas compliqué. Hein. Oh, il y a des textes qui peuvent être compliqués. Mais si déjà on applique tous ceux qui ne sont pas compliqués, on sera merveilleux. Parce qu'il y a de quoi appliquer. L'histoire encourage l'écoute, elle suscite l'intérêt, elle retient l'attention. Elle éclaire la conscience. Voilà ce que j'ai lu sur les paraboles. Elle éclaire la conscience. La conscience de David était complètement endormie. J'ai raison, je suis le roi, je fais ce que je veux. C'est terrible ça. Sa conscience était complètement endormie. Par contre, cette histoire va se graver dans son cœur. C'est ce que fait Jésus avec les paraboles. On reviendra peut-être un petit peu sur les paraboles, parce que je vais laisser le temps à Philippe. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais juste expliquer avant de terminer. Qu'est-ce qui se passe avec la parabole? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de David? Eh bien, il est amené à voir les choses d'un autre point de vue. C'est le point de vue de Dieu. C'est le point de vue de la victime. Jusqu'à présent, il avait que le point de vue de l'agresseur. J'ai le droit, je suis le roi. Et là, avec cette parabole, tu me dis donc, t'as pensé à la victime? T'as pensé à ce qu'elle a subi? Et puis, et Dieu là-dedans, la justice de Dieu. Du coup, il va lui faire changer sa perspective. Et ça, c'est important. Il avait complètement abandonné la perspective de Dieu, la perspective de la victime. Le point de vue, ça ne l'intéressait pas. Il n'avait que le sien. Et là, Dieu va tout doucement lui dire, maintenant, tu vois maintenant que tu es juge. Tu vois un petit peu? Tu vois moi comment je vois les choses? Tu vois comment la victime a vécu les choses? Et là, ça a changé. Depuis ce moment sur sa terrasse, il n'avait que la façon de voir du riche, comblé, exigeant, égoïste. Il n'avait pas pris le temps de voir la situation avec les yeux de Dieu, ni avec le regard des autres qui sont devenus ses victimes. Alors, je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard, mais je crois que ça nous appelle nous aussi à essayer de voir la perspective de Dieu, à avoir cette patience. Cette patience, mais vous allez voir, il y a de la justice avec. Hein. Je n'ai pas le temps de revenir sur le texte, je pense que Philippe le fera, sur ce qui s'est passé après, j'en reparlerai la prochaine fois. Mais je pense qu'il nous arrive à tous d'oublier la façon de voir de Dieu. On a notre façon de voir, avec ma culture, mes habitudes, la culture de ma famille, la culture de mon pays, et puis alors nous les Français on est gâtés, hein, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on pense parfois, et c'est ce que j'ai aimé chez maman, qui me disait toujours, qu'est-ce que Dieu ferait à ta place? Chaque fois que je lui proposais un truc un peu, je me disais, mais qu'est-ce que Dieu ferait à ta place? Quel est le point de vue de Dieu? Et je pense que c'est pour ça aussi que je ne me suis pas révoltée, parce qu'elle me replaçait toujours face à Dieu. Et elle ne me disait pas, voilà, Dieu m'a dit que tu devais faire ci, Dieu m'a dit que tu devais faire ça. Ça, je ne l'aurais pas accepté. Par contre, quand elle me disait, qu'est-ce que tu crois que Dieu ferait à ta place? Que ferait Jésus? Ah, là, je ne pouvais pas discuter, je ne pouvais pas lui en vouloir à elle. Elle me replaçait devant la vérité, Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il me demande? J'ai trop aimé ça dans mon éducation. Alors, à l'occasion, je ferai un petit séminaire là-dessus, parce que je pense que voilà, c'est ça qui est important pour les enfants, c'est de se placer devant Dieu. Parce que nous, on va disparaître, mais Dieu restera toujours avec eux. Pensons à ce qui plaît à Dieu, ce qui est juste et bon. Pensons aux personnes qu'on risque de pénaliser par notre comportement. C'était le cas de David. Et là, on a un autre point de vue. On a un autre point de vue. Cette patience de Dieu, cette patience du prophète Nathan, qui a été tellement sobre dans ce qu'il a fait. Il a expliqué, en fait, par cette parabole. Il aurait pu venir en disant « À nous deux, David !» Il a été sobre, il a été patient. Il a attendu que Dieu l'envoie. Moi, je pense qu'il devait bouillir de temps en temps, quand même. Et puis, quand il est venu, il a été rempli de fermeté, mais de beaucoup d'amour et de patience. C'est un des plus grands prophètes, pour moi, de la Bible. Et je pense qu'il faut, avec nos enfants, avec notre entourage, etc., quand quelqu'un a vraiment désobéi à Dieu, moi, ça m'a beaucoup parlé. Qu'est-ce que je fais? Ceci déplaît beaucoup. Ce que tu as fait déplaît beaucoup à l'Éternel. Seigneur, merci, parce que nous avons tous besoin chaque jour de nous replacer dans ta perspective, avec ton point de vue sur les choses, ton point de vue sur les difficultés. Et merci Seigneur, parce que hier soir tu m'as restauré, parce que j'ai repris ton point de vue. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Et dans ce monde où tout est compliqué, où le vrai et le faux se mélangent, où chacun en fait un peu à sa tête, ah Seigneur, tu es formidable. Tu es notre lumière, ta parole est une lampe à nos pieds. Tu nous resitues en sécurité. Avec toi, on est en sécurité. Tu dis malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et c'est vrai, aide-nous à revenir à ta perspective, à voir les choses et à les faire comme Jésus les ferait, à les voir et les faire comme Jésus les a vues et les a faites. Merci Seigneur pour ton secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen.